Selon les statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 360 millions de personnes dans le monde souffrent de déficience auditive, dont 32 millions d'enfants. Ça va, vous m'entendez ? La déficience auditive peut être due à des causes génétiques, à des complications à la naissance, à certaines maladies infectieuses ou des infections chroniques de l'oreille, mais aussi à l'utilisation de certains médicaments ou à l'exposition à un bruit excessif et aussi au vieillissement. Les personnes âgées entendent moins bien en général. Plus d'un milliard de jeunes, vous m'entendez les jeunes ? Plus d'un milliard de jeunes de 12 à 35 ans risquent une déficience auditive par exposition au bruit dans un cadre récréatif, si vous allez à un concert par exemple, ou si vous écoutez fort votre smartphone ou la musique, votre lecteur MP3. Les personnes atteintes de déficience auditive voient malgré tout leur état amélioré grâce à un dépistage précoce par l'utilisation de dispositifs tels que des appareils auditifs, les dispositifs d'aide à l'audition, des implants qu'on met dans l'oreille, mais aussi, vous l'avez peut-être vu à la télévision, les sous-titrages, la formation à la langue des signes et d'autres formes de soutien éducatif et social. Voilà un petit peu ce que nous dit l'Organisation mondiale de la santé concernant la déficience auditive et le risque de surdité, le risque d'être sourd. Alors je ne sais pas si les gens qui écoutaient Jésus il y a 2000 ans souffraient eux aussi de déficience auditive, mais ce qui est sûr, c'est que Jésus les appelle à écouter et donc à comprendre ce qu'il enseigne. Et le remède qu'il donne, lui, Jésus, à la surdité ou à la déficience spirituelle de ses auditeurs, c'est son enseignement. Lui qui est le roi du royaume de Dieu venant sur terre. Nous allons reprendre ce matin notre série de prédications de l'Évangile selon Marc. Et le texte que nous allons lire ce matin dans le chapitre 4 est un texte assez long. Et je vous invite donc avec Jésus à écouter jusqu'au bout pour comprendre ce que Dieu a à nous enseigner ce matin. Ouvrons nos Bibles donc dans Marc chapitre 4 et je lirai du verset 1 jusqu'au verset 36. Pour les anglophones, Marc chapter 4, verse 1 to 36. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était sur le lac, et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. « Écoutez !» Un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas de racines, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende !» Quand il fut seul avec eux, Ceux qui l'accompagnaient, ainsi que les 12, lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il venait de raconter. Il leur dit : Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés, mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, afin que, lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas, quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se tournent vers Dieu et ne reçoivent le pardon de leurs fautes. Puis il leur dit : Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment alors comprendrez-vous les autres ? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Quand surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres convoitises qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui l'acceptent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Il leur disait aussi : Est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous un boisseau ou sous un lit ? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur le porte-lampe ? Tout ce qui est caché doit être mis en lumière. Tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il ajouta : Faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer et on y ajoutera. Car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Il disait aussi : Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé. D'abord la tige, puis l'épi vert, et enfin les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Il continua en disant : À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter ? Il en est de lui comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. Par beaucoup de paraboles de ce genre, Jésus enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Il ne parlait pas sans paraboles. Et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples : Passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Mon but ce matin est de vous aider à avoir une vue d'ensemble de ces paraboles plutôt que de faire une analyse verset par verset. C'est Marc lui-même, l'auteur, qui m'a donné envie de procéder ainsi ce matin, en traitant en une seule fois tout ce long texte. Pourquoi ? Parce que Marc nous donne quelques indices que ces histoires forment un ensemble. Et j'aimerais vous donner ces repères avant de regarder chaque parabole un peu de plus près. Donc on va procéder en trois temps. Ce matin, d'abord, on va regarder les points de repère que Marc nous donne et ça sera notre échauffement. On va définir le message principal de tout ce chapitre. Ensuite, on passera à l'entraînement à proprement parler, c'est-à-dire comment le message de Marc 4 se décline-t-il. Et enfin, dans un troisième temps, on récupérera un peu de nos efforts avec quelques étirements. Ça sera les leçons que nous avons à retenir de cet enseignement de Jésus. D'abord, l'échauffement. Un bon entraînement nécessite un bon échauffement. Bien comprendre ce texte nécessite de repérer les indices clés du déroulement de l'histoire. Quels sont ces indices que Marc nous donnent et qui nous permettent de comprendre toutes ces histoires ensemble. D'abord, j'aimerais vous faire remarquer le lien qu'il y a entre les tout premiers versets de notre passage et le dernier. Verset 1 jusque le verset 1 à 3 et le verset 36. Jésus donc commence à enseigner au bord du lac. Il est toujours dans cette région de la Galilée, au bord du lac de Tibériade ou de la mer de Galilée. Les deux noms sont possibles. Et la foule est si nombreuse que Jésus monte sur une barque. On avait vu dans un passage précédent que Jésus, refusant que les gens lui sautent dessus pour être guéri, a demandé à ses disciples de tenir à sa disposition une barque. Et puis au verset 36, nous voyons que Jésus laisse la foule, ou renvoie la foule, et monte et part avec ses disciples sur l'autre rive. Et puis nous verrons la prochaine fois qu'est-ce qui se passe dans la suite. Mais au verset 10, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Marc nous dit que Jésus se retrouve seul avec ses disciples. Et on se demande bien comment c'est possible. Parce que entre le verset 1 et le verset 36, il ne semble pas que Jésus ait fait de pause. Par exemple, il n'a pas dit « Le cours de ce matin est fini, bon appétit, revenez à 14h ». Marc ne nous en a pas parlé. Et puis, si Jésus se retrouve seul avec ses disciples, ça voudrait dire que la foule a mystérieusement disparu, sans prévenir. Mais alors pourquoi réapparaît-elle au verset 36 pour que Jésus la renvoie ? On ne comprend pas bien le sens. Il se trouve donc, vraisemblablement, qu'au verset 10, cette partie de l'histoire n'a pas de lien chronologique avec le reste. Et que Marc a mis là, dans cet enseignement de Jésus en parabole, un petit récit où Jésus discute en privé avec ses disciples. La question c'est, pourquoi ? Pourquoi Marc met-il là cet élément qui ne colle pas dans la chronologie avec le reste ? Pour l'instant, nous voyons, on va répondre à cette question, mais pour l'instant on voit qu'au verset 1 et au verset 36, Jésus enseigne la foule au bord de la mer depuis une barque. Maintenant, regardons quel est le thème et en quoi la manière dont Marc nous raconte l'histoire peut nous aider à voir le thème. Jésus enseigne la foule en parabole. Vous avez noté ce mot qui revient plusieurs fois dans notre passage. Le mot parabole a déjà été utilisé dans l'histoire que nous avons commentée la dernière fois. Au chapitre 3, Jésus parlait en parabole aux scribes qui l'accusaient de chasser les démons par la puissance du diable. Et Jésus avait utilisé quelques images, l'image du royaume divisé de Satan, l'image du cambriolage, pour montrer que il n'est pas le serviteur de Satan, mais il est plutôt celui qui vient piller ses biens. Quelles sont les paraboles dans notre texte de ce matin ? Elles sont toutes introduites par la formule « il disait ». »« Il disait », »,« il disait » ou « il disait encore ». C'est la première histoire, qu'on appelle souvent la parabole du semeur, verset 3 au verset 8. Il y a la parabole de la lampe, versets 21 et 22. Et puis ensuite, on ne sait pas trop si c'est un commentaire ou une nouvelle parabole, la parabole de la mesure. C'est avec la mesure que vous utilisez qu'on vous mesurera. Ensuite, il y a la parabole de l'agriculteur, versets 26 à 29. Et enfin, la parabole de la graine de moutarde, versets 30 à 32. Donc, cinq petites paraboles. Question, à qui Jésus s'adresse-t-il avec ses histoires, avec ses paraboles ? Jésus le dit lui-même au verset 11, il dit « c'est à ceux du dehors ». Et nous avions vu la dernière fois qu'il y a plusieurs personnes qui restent dehors et qui ne s'approchent pas de Jésus pour devenir ses disciples. Il y a les membres de sa famille, il y avait les scribes, et puis il y a aussi les foules. Et c'est aux foules ici que Jésus s'adresse. Et c'est dans ce contexte où Jésus parle à ceux du dehors que Marc a mis ce dialogue privé entre Jésus et ses disciples, après la parabole dite du semeur. Les disciples demandent des explications à Jésus. Et que dit Jésus ? Il leur explique la parabole du semeur. Mais avant cela, il dit quelque chose d'aussi important que l'explication de la parabole. Il dit au verset 11, « Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés ou révélés, mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, afin que, lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas. » C'est une citation de Ésaïe chapitre 6. « Quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se tournent vers Dieu et ne reçoivent le pardon de leurs fautes. » Puis il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment alors comprendrez-vous les autres ?» Et puis, vers la fin de notre passage, au verset 33 et 34, ça va ? Vous suivez toujours ? Jésus dit, « Par beaucoup de paraboles, » enfin c'est Marc qui dit, « Par beaucoup de paraboles de ce genre, Jésus enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. » Il ne leur parlait pas sans se servir de paraboles, et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Et donc ces versets sont importants pour nous aider à comprendre l'ensemble ici. Jésus s'adresse à deux types de publics différents. Aux foules, Jésus enseigne son message du royaume de Dieu en paraboles, par des histoires tiré de la vie courante. Et à ses disciples, donc aux 12 apôtres qu'il a appelés, et le petit cercle qui s'est formé autour de ces 12 et qui écoute Jésus, pour non seulement s'intéresser à ce qu'il dit, mais pour mettre en pratique son enseignement, eh bien à ces personnes-là, Jésus explique tout. Et c'est pour ça qu'on a ce dialogue privé entre Jésus et les disciples dans ce passage. Qu'est-ce qui se passe ici ? Dimanche dernier, nous avions vu comment Jésus définit son travail, sa mission. Il cambriole le camp de l'ennemi, le diable. Par la puissance de sa prédication et par la puissance du Saint-Esprit. Jésus, au moment où il parle, et depuis 2000 ans que ça dure, arrache au royaume du diable des hommes et des femmes qui mettent leur confiance en lui pour changer de vie. Ce sont ceux qui le suivent comme disciples. Mais d'autres personnes, les scribes, les membres de sa propre famille de sang, les foules qui cherchent seulement un guérisseur, restent en dehors du royaume de Dieu. La venue de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Marc chapitre 1, verset 1, commence à opérer un tri au sein du peuple d'Israël, entre ceux qui restent attachés au royaume du diable et ceux qui, par la foi en Jésus, changent de roi et de royaume. Eh bien, notre texte de ce matin, le chapitre 4 de Marc, nous explique précisément, plus précisément, comment s'opère ce tri entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas au sein du peuple ? Et comment ça se passe ? C'est par l'enseignement de Jésus, avec les paraboles, que Jésus met les gens devant un choix. Et c'est avec cette idée de choix personnel et de tri spirituel que nous devons comprendre toutes ces paraboles, tout ce passage. Et c'est pour cela que je parcours avec vous ce matin toutes ces paraboles que Marc a regroupées ici. Et c'est pour cela qu'il nous fallait cet échauffement avant de passer au cœur de l'entraînement en regardant brièvement chaque parabole. Alors j'espère que cet échauffement ne vous a pas déjà épuisé. Et nous allons maintenant passer au deuxième temps et regarder ensemble comment ce thème du tri et aussi du choix personnel se retrouve dans les paraboles de notre passage. Maintenant donc, l'entraînement, les paraboles. Alors d'abord, la parabole qu'on appelle d'habitude la parabole du semeur, et que moi j'appellerais plutôt la parabole des terrains, parce que le thème principal de cette parabole, c'est les terrains, et pas tellement le semeur. même si le rôle du semeur est important. Cette parabole du semeur décrit les différents types de terrains ou de sols qui reçoivent la semence. Le bord du chemin, le sol rocailleux, les ronces et enfin la bonne terre. Il y a quatre sols différents, quatre terrains différents. Et vous avez sans doute remarqué que seule la bonne terre permet de porter du fruit, permet à la semence de produire du fruit. Les trois autres terrains ne portent pas de fruits. Et donc là aussi, on retrouve un petit peu les deux groupes d'auditeurs, ceux qui croient, qui acceptent et qui mettent en pratique l'enseignement de Jésus, c'est la bonne terre, et tous les autres qui se retrouvent dans un des trois autres terrains, soit le bord du chemin, où la semence est vite enlevée par le diable, parce que il n'a pas envie de se faire cambrioler son royaume. Et donc, dès qu'il peut, eh ben, il récupère ce que Jésus essaye de lui voler. Ou bien, le sol rocailleux, la terre est peu profonde, il n'y a pas de racines. Ah, ça pousse vite, mais ça ne tient pas dans la durée. Et puis, le troisième terrain, les ronces. Là aussi, ça pousse un peu, mais c'est vite étouffé par d'autres choses. Écoutez, pour le mettre en pratique, l'enseignement de Jésus, parce qu'on reconnaît qu'il est le Seigneur, c'est être comme cette bonne terre qui accueille sa parole et qui produit du fruit. 30, 60, 100. Et dans l'explication de la parabole aux disciples, on retrouve, vous l'avez vu, Satan, le chef des démons, dont les scribes pensaient que Jésus était le serviteur. Et lui ne souhaite pas que son royaume soit pillé. Alors il cherche par tous les moyens à détourner les gens de la vérité. Certains hommes, verset 15, se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. D'autres écoutent la parole de Jésus, certains même avec plaisir, avec joie, verset 16. Mais le manque de racines ou les soucis du monde font qu'il n'y a pas de fruits. Ces personnes ont finalement d'autres priorités que le royaume de Dieu. Il ne suffit donc pas d'écouter Jésus, encore faut-il accepter, c'est-à-dire mettre en pratique sa parole. Voilà quelques éléments pour la parabole dite du semeur. La parabole de la lampe. Versets 21 à 23. Au verset 21, la manière dont Jésus pose la question « Est-ce qu'on apporte une lampe pour la cacher ?» appelle la réponse « Évidemment non !» Eh bien, de la même manière qu'une lampe est utilisée pour éclairer une pièce, par exemple, de la même façon, le royaume de Dieu qui vient avec Jésus met en lumière ce qui auparavant est resté dans l'obscurité. En particulier, le plan de Dieu pour ce monde, le plan de salut de Dieu pour ce monde. Jésus le dira dans l'évangile selon Jean, est la lumière du monde, Jean 8, verset 12. Et la lumière finit par chasser les ténèbres. C'est vrai en ce qui concerne le monde invisible, Jésus est en train de piller le royaume du diable. C'est vrai aussi dans la vie de chaque personne. Dieu veut faire la lumière dans nos vies pour enlever peu à peu le péché qui ronge nos cœurs. Il veut faire de nous des lumières pour ce monde. Et j'en dirai encore quelques mots dans la conclusion tout à l'heure. Parabole de la lampe, donc, qui nous invite à nous rapprocher de Jésus la lumière pour devenir des lumières pour ce monde à notre tour. Et puis ensuite, un commentaire parabole de la mesure. Cette courte parabole illustre ou commente le verset 23. Jésus dit au verset 23 « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende !» Phrase qui revient souvent dans l'évangile, deux fois dans notre passage. Et ensuite au verset 24, il ajouta « Faites bien attention à ce que vous entendez !» Il y a donc un lien là, entre les deux versets. « On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer, et on y ajoutera. Car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu peut-être compliqué à, à comprendre. Vous avez sans doute remarqué que le mot « entendre » ou « écouter » ou « comprendre » apparaît à de nombreuses reprises dans notre passage. Et c'est pour ça que l'introduction parlait de la surdité ou des déficiences auditives, parce que c'est le thème principal de ce message. « Écoutez », dit Jésus. « Écoutez », verset 3. Et puis verset 9, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Et puis au verset 12, la citation d'Ésaïe 6, « Quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas ». Au verset 13, Jésus qui dit à ses disciples, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment alors comprendrez-vous les autres ?» Dans l'explication de la parabole du semeur, le verbe « écouter » et « entendre », »,« comprendre » revient plusieurs fois. Verset 23, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Et enfin, au verset 33, « Il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre ». La parabole de la mesure illustre donc cette écoute. Dans ma compréhension de cette parabole, la mesure, c'est l'écoute. Je reformule à ma manière le texte, verset 24, verset 25, pardon. À celui qui a compris ou écouté, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas compris, pas écouté, on enlèvera même le peu qu'il a compris, qu'il a écouté. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset. Je répète. À celui qui a écouté, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas écouté, on enlèvera même le peu qu'il a compris. Jésus dit, on y ajoutera, et aussi on donnera encore. Et dans le contexte de notre passage, ça, c'est le privilège des disciples. Les foules, les scribes, la famille de Jésus, en tout cas à ce moment-là, ne bénéficient pas de ce « on donnera encore ». Alors que les disciples de Jésus, eux, ont toutes les explications qu'ils veulent de la part de Jésus. Alors Jésus les secoue un peu. « Eh oh les gars, vous ne comprenez pas la première parabole, comment est-ce que vous allez comprendre toutes les paraboles ?» Donc les disciples ont du mal à comprendre. Et donc ils ont aussi un choix personnel à faire pour comprendre ce que Jésus est en train de dire. Mais leur place est un peu différente. Et eux-mêmes bénéficient des explications de Jésus. Il y a donc, on pourrait commencer à tirer le message suivant, il y a donc un grand bénéfice, une grande bénédiction quand on écoute et qu'on accepte la parole de Dieu pour soi-même. Ça rejoint l'avantage de la sagesse que nous sommes en train de méditer dans le livre de l'Ecclésiaste cet été. En résumé, écouter la parole de Dieu procure un grand bénéfice, rejeter sa parole amène de grandes pertes. Ça va ? Vous n'êtes pas trop fatigué ? On passe à la quatrième et avant-dernière parabole, la parabole de l'agriculteur, versets 26 à 29. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. Cette parabole n'est rapportée que par Marc. On ne la trouve pas dans les autres évangiles. Dans plusieurs de mes traductions de la Bible, j'ai trouvé pour cette parabole le titre Parabole de la semence, dans la Bible Second ou dans la Bible du Semeur, justement. Cette parabole porte le titre Parabole de la semence. Mais je ne vois pas pourquoi, puisque le sujet de l'histoire, c'est l'homme qui a semé la semence, et moins la semence. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a semé. D'où mon titre, La parabole de l'agriculteur. Que se passe-t-il dans cette histoire ? La semence est effectivement importante. Elle pousse selon le processus et les lois naturelles que Dieu a établies. Mais le point central de l'histoire, ce n'est pas la croissance de la plante en tant que telle. C'est le fait que cette croissance échappe à l'agriculteur. Vous avez remarqué ça dans le texte ? L'agriculteur ne sait pas finalement comment ça pousse. Il sait plein de choses, cet agriculteur. Il connaît son métier, il connaît les étapes de maturation du blé. D'abord les jeunes pousses, ensuite les épis, ensuite les grains dans les épis, verset 28. L'agriculteur sait aussi quand il faut récolter, il connaît son boulot. Il y met la faucille quand l'épi est mûr, verset 29. Il fait donc un certain nombre de choses. Il sème, il observe la croissance, il moissonne au bon moment, il fait son boulot d'agriculteur. Et pourtant, il ne maîtrise pas cette croissance. Ce n'est pas lui qui l'a produit, mais, nous dit le verset 28, la terre fait d'elle-même pousser le blé. Et quand l'agriculteur dort, parce qu'il faut quand même se reposer de son travail, la nuit, la croissance se poursuit sans qu'il en ait conscience. Le rôle de l'agriculteur est donc important, mais la croissance naturelle, en tant que telle, ne dépend pas de lui. C'est ça le message principal de cette parabole. L'œuvre de Dieu, la croissance de son royaume, se produit d'elle-même et échappe aux hommes dans un long processus de maturation. Et donc, le tri qui s'opère dans le peuple d'Israël à cause de Jésus et de son enseignement, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre, les hommes ne peuvent pas la contrôler. Dernière parabole, la cinquième, la parabole de la graine de moutarde, qui est assez proche de la quatrième parabole de l'agriculteur. Relisons-la, verset 31. Il en est du royaume de Dieu comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. Le royaume de Dieu et son Messie, Jésus, viennent éclairer le monde. Mais ce n'est pas à coup de projecteurs éblouissants ou de tonnerres retentissants. Il y a des coups d'éclat, c'est vrai. Je vous invite à revenir la prochaine fois. Parce que si vous cherchez des miracles, vous allez être servis. Là, il y a la tempête calmée, la fille de Jaïrus guérie, ressuscitée, le démoniaque, voilà. Hein, on verra là des choses extraordinaires. Mais pour l'heure, ou de manière générale, le royaume de Dieu ne procède pas par coup d'éclat, mais plutôt par une action qui semble d'abord insignifiante, comme cette graine de moutarde. Par contre, lorsqu'on regarde en arrière et que l'on voit cette œuvre de Dieu dans son ensemble, elle dépasse de loin les autres œuvres, les plantes potagères. Et beaucoup de gens, les oiseaux, trouvent un abri dans ce royaume qui au départ paraissait si faible. Passer du royaume du diable au royaume de Dieu, en mettant sa confiance en Jésus, c'est trouver un refuge, un abri, comme ces oiseaux sous les branches de la plante de moutarde. Attention, hein, c'est une plante de moutarde, c'est pas un cèdre majestueux, d'accord ? Le point important ici, ce n'est pas la taille de la plante, c'est le contraste entre la taille de la graine au départ et la taille de la plante à l'arrivée, et le fait que les oiseaux peuvent y trouver un refuge. En résumé, cette parabole. Le royaume de Dieu vient avec puissance dans ce monde. Cependant, sa puissance n'est pas là pour satisfaire nos désirs de spectacle et d'extraordinaire. C'est un royaume qui peut paraître faible, mais dont la croissance est sûre et procure un abri pour ceux qui s'y réfugient. Ça va pour l'entraînement ? Les exercices ne sont pas trop fatigants ? On va récupérer un peu maintenant, une petite séance d'étirement. Quelles sont les leçons à tirer pour nous de ce long texte ce matin ? Je vais reprendre brièvement chaque parabole avec son point essentiel de manière un peu pratique. La parabole du semeur. Aujourd'hui encore, un tri s'opère dans ce monde. Entre ceux qui écoutent et acceptent la parole de Christ Et ceux qui refusent d'emblée, ou après quelque temps d'adhésion, l'Évangile. Et à nous aussi ce matin, l'appel de Jésus est lancé. Écoutez, comprenez et suivez-moi. Et donc la question se pose aussi pour nous. Dans quel terrain recevons-nous la parole ce matin ? Dans un des trois terrains qui ne produisent pas de fruits ? Est-ce que nous allons oublier ce message sitôt passé la porte d'entrée de ce bâtiment ? Est-ce que nous allons laisser cette parole pousser mais sans racines ? Et donc fondre à la première chaleur venue ? Ou est-ce que nous allons laisser les soucis ou les préoccupations de la semaine étouffer la parole de Dieu ? Ou bien sommes-nous disposés à non seulement écouter, mais accepter le Christ et son règne dans notre vie et à en produire le fruit cette semaine ? C'est la bonne terre. Deuxième parabole, parabole de la lampe. Voulons-nous laisser Christ faire la lumière dans ce que nous essayons peut-être de laisser dans l'ombre, dans nos vies ? Un péché, un domaine de notre vie peut-être que nous voulons diriger nous-mêmes, une partie de notre histoire personnelle que nous essayons d'enterrer en nous disant, voilà, c'est dans l'ombre, personne ne viendra y regarder. Quand le Christ nous éclaire, il nous appelle aussi à lui laisser régner dans ces endroits-là. Les endroits où nous péchons, les endroits où nous préservons certaines choses. Quand le Christ nous éclaire, il nous appelle aussi à briller à notre tour pour que ceux qui nous entourent y voient plus clair. Ce sera d'ailleurs le thème de notre année 2017-2018. Jésus veut faire de nous des lumières pour ce monde. Je vous invite à lire aussi la petite affiche qui est sur la porte d'entrée et qui dit « Vous entrez dans votre champ de mission ». Peut-être vous avez déjà lu cette pancarte ce matin ou la semaine dernière. Elle est là depuis la semaine dernière. Et c'est vrai, quand nous allons sortir de cette salle, nous entrons dans notre champ de mission. Nous sommes appelés à être des lumières pour ce monde. Et la lumière ne peut pas briller seulement dans cette pièce. Il faut qu'elle éclaire le monde parce que les gens de notre entourage, ils ne voient rien. Ils sont dans l'obscurité, ils tâtonnent. Et à notre contact, ils y verront plus clair et ils auront peut-être envie, eux aussi, d'avoir cette lumière en eux. L'Esprit de Jésus. Troisième parabole, la parabole de la mesure. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ? Nous pouvons retenir l'idée que Dieu veut nous bénir. Si nous l'écoutons, nous serons au bénéfice de sa grâce, de son amour. Nous aurons sa faveur. Dieu fait de ceux qui l'écoutent ses enfants. Alors il est vrai que suivre Jésus coûte beaucoup, parce qu'on doit renoncer à des habitudes, à des péchés, à des relations peut-être auxquelles on tient. Mais reprendre l'image de la lumière, le jeu en vaut la chandelle, comme dit l'expression. Ce que l'on perd d'un côté pour suivre Jésus, on le gagne d'un autre parce que Dieu nous accorde sa faveur. Non pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que lui, Dieu, est bon et généreux. Il veut nous bénir. Est-ce que nous voulons être au bénéfice de la bénédiction de Dieu ? Quatrième parabole. Écoutez Christ, c'est lui laisser la maîtrise des événements et le laisser diriger son œuvre dans notre vie et dans ce monde, comme dans la parabole de l'agriculteur. Comme l'agriculteur, nous avons certainement un savoir-faire dans l'un ou l'autre domaine. Et nous avons des choses à faire. mais nous ne maîtrisons pas tout. Laissons Dieu être Dieu dans notre vie de cette semaine. Remettons-lui dans la prière la direction de cette semaine, de cette rentrée scolaire, de cette reprise du travail qui arrive, de la vie de l'Église pour cet automne. Laissons Dieu être Dieu. Et enfin, cinquième parabole, la parabole de la graine de moutarde. Jésus et son royaume ne sont pas venus satisfaire notre goût pour le spectaculaire et le sensationnel. Ces choses que les foules recherchent auprès de Jésus, et quand on regarde notre monde aujourd'hui, on voit que rien n'a changé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dit l'Ecclésiaste. Ces choses sensationnelles que notre monde cherche avant tout, finissent par étouffer la parole de Dieu. S'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire dans votre vie en ce moment, cela ne veut pas forcément dire que vous manquez de foi. C'est peut-être que Dieu agit en douceur pour vous apprendre à compter sur lui avec patience et qu'il est en train de vous apprendre la persévérance. Et avec le temps, vous constaterez peut-être que Dieu a quand même produit son œuvre, malgré les apparences faibles pour nos yeux ou pour les yeux de notre époque, et que vous aurez pu trouver un abri en lui, comme les oiseaux dans la parabole. Ne vous découragez donc pas si vous ne sentez pas ou si vous ne voyez pas Dieu agir pour vous de manière tangible et mesurable. Mais continuez à suivre Jésus-Christ, quoi qu'il en coûte. Le réconfort viendra tôt ou tard. Faites confiance à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton enseignement. Il y avait beaucoup de matière ce matin. Nous n'avons probablement pas tout compris, pas tout écouté, pas tout digéré. Seigneur, fais-nous grâce pour reprendre à tête reposée ces histoires, peut-être pendant cette semaine qui vient, et nous demander là où nous en sommes. Dans quel terrain sommes-nous et allons-nous passer cette semaine ? Seigneur, change nos vies pour que notre cœur devienne cette bonne terre qui reçoit et accepte ta parole pour qu'elle produise du fruit. Que nous ne soyons pas les hommes et les femmes d'un moment seulement. Que nous ne nous réjouissions pas de la vie chrétienne seulement pour quelques temps. Quelques années, mais pour toujours avec toi. Seigneur, ce matin encore, tu veux transformer nos vies. Et toi, tu sais pour chacun ce qui est nécessaire. Soit un coup de tonnerre, soit un doux murmure pour nous réconforter. Visite-nous, Seigneur. Chacun personnellement, et que dans cette semaine qui s'ouvre devant nous, nous puissions faire les bons choix avec toi en regardant Jésus, à Jésus le roi. Amen.